Causerie d'Abdu'l-Bahá à Paris. Votre narrateur, Dominique Marchal. Introduction. Abdu'l-Bahá, fils de Baha'u'llah, le prophète fondateur de la foi bahaï, est né le 23 mai 1844 en Iran. Son enfance et son adolescence se sont écoulées dans les affres d'une misère et d'une affliction continuelle. Compagnon d'exil de son père, il dut quitter son pays à l'âge de 9 ans. À 24 ans, les portes de la prison de Saint-Jean d'Acre se referment sur lui pour ne s'ouvrir que 40 ans plus tard. À sa libération, il avait 64 ans. Et c'est alors seulement que commence la mission dont l'a investi Baha'u'llah. Malgré son âge et son affaiblissement causé par les privations, il entreprend la tâche de porter en Occident le message d'amour, de paix et de justice révélé par Baha'u'llah. Il s'embarque en septembre 1910 pour visiter l'Égypte, l'Europe et les États-Unis. C'est lors de son séjour à Paris en 1911 que ses causeries furent enregistrées. Par testament, Baha'u'llah l'a choisi comme successeur pour interpréter ses écrits sacrés et lui a donné le titre de centre du covenant, c'est-à-dire de l'alliance entre Dieu et l'humanité pour notre âge. À son tour, Abdu'l-Bahá a laissé un testament, véritable charte développant les structures administratives de l'ordre mondial bahaï à établir. Pour tous les bahaïs, il est le modèle parfait de la foi, doué d'un savoir surhumain et considéré comme le miroir sans tache, réfléchissant la lumière du prophète de Dieu. Après sa libération, il fit preuve d'une énergie et d'un courage extraordinaire, voyageant, exhortant les fidèles, enseignant les humbles et les érudits, secourant les pauvres, soignant les malades, et pendant la nuit, répondant aux innombrables lettres qu'il recevait de partout. Sa mort survint le 28 novembre 1921, après 29 ans de ministère personnel. Il avait écrit des milliers de tablettes, des prières, des poèmes, des commentaires. Préface. Lors de son séjour à Paris en 1911, Abdu'l-Bahá donnait chaque jour une courte causerie sur les principes de Baha'u'llah. Il s'exprimait en persan et un interprète traduisait ses paroles en français. Lady Blomfield et ses filles prirent des notes qui furent ensuite traduites en anglais. À la demande même d'Abdu'l-Bahá, qui les avait relues et approuvées, note page 181 de The Chosen Highway, c'est la traduction en français de ces notes que l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de France publie ci-après. Partie 1. Causerie sur des sujets divers. Chapitre 1. Des devoirs de sympathie et de bonté envers les étrangers. Dès qu'un homme se tourne vers Dieu, il voit le soleil resplendir partout. Tous les hommes deviennent ses frères. Quand vous vous trouvez avec des étrangers, que le souci des conventions ne vous rende pas froid et distant. Ne les considérez pas avec suspicion comme des malfaiteurs, des voleurs ou des rustres. Vous estimez nécessaire d'être prudent, de ne pas courir le risque de lier connaissance avec des personnes peut-être indésirables. Je vous demande de ne pas songer uniquement à vous-même. Soyez bon pour les étrangers, qu'ils soient turcs, japonais, persans, russes, chinois ou de toute autre nationalité. Faites en sorte qu'ils se sentent chez eux, tâchez de savoir où ils logent, cherchez à leur rendre service, essayez de leur rendre la vie un peu plus agréable. Même si un jour vos premiers soupçons étaient fondés, continuez de la même manière à leur manifester de la bienveillance. Cette bonté les aidera à devenir meilleurs. Après tout, pourquoi traiter en étranger les habitants des autres pays? Que ceux qui vous rencontrent sachent sans que vous ayez à le proclamer, qu'en vérité, vous êtes un Bahaï. Mettez en pratique le précepte de Baha'u'llah, bonté envers toutes les nations. Ne vous contentez pas des paroles amicales, mais que votre cœur soit embrasé par une affectueuse bonté envers tous ceux qui peuvent croiser votre chemin. Ô vous, peuple d'Occident, soyez bons envers ceux qui viennent des pays orientaux pour séjourner parmi vous. Oubliez votre formalisme quand vous conversez avec eux. Ils n'y sont pas accoutumés. Cette attitude paraît froide et inamicale au peuple d'Orient. Ayez plutôt une attitude de sympathie. Montrez-vous pénétré d'un amour universel. Quand vous rencontrez un Persan ou quelqu'un d'autre étranger, parlez-lui comme à un ami. S'il a l'air seul, tâchez de l'aider. Offrez-lui spontanément vos services. S'il est triste, consolez-le. S'il est pauvre, secourez-le. S'il est opprimé, délivrez-le. S'il est dans la détresse, réconfortez-le. En agissant ainsi, vous prouverez non seulement en parole, mais en fait et en vérité, que vous considérez tous les hommes comme vos frères. À quoi sert-il de convenir que l'amitié universelle est un bien et de parler de la solidarité du genre humain comme d'un grand idéal ? À rien si ces idées ne sont pas transformées en actes. Le mal persiste dans le monde précisément parce que les gens ne parlent que de leurs idéaux sans s'efforcer de les mettre en pratique. Si les actes remplaçaient les paroles, la détresse du monde serait bientôt transformée en bien-être. Un homme qui fait beaucoup de bien sans en parler est sur le chemin de la perfection. Celui qui, ayant fait un peu de bien, l'amplifie dans ses discours, n'a que très peu de mérite. Si je vous aime, je n'ai pas besoin de vous en parler sans cesse, vous le saurez sans que j'en souffle mot. D'autre part, si je ne vous aime pas, vous le saurez également. Et vous ferai-je 1000 protestations d'amitié que vous ne me croiriez pas. Les gens font profession de bonté, multipliant les belles paroles afin de paraître plus grands et meilleurs que leurs semblables et d'acquérir une bonne renommée. Ceux qui font le plus de bien sont ceux qui en parlent le moins. Les enfants de Dieu agissent bien sans s'en vanter, obéissant à ses lois. J'espère que vous vous garderez toujours de toute tyrannie et oppression, que vous travaillerez sans relâche jusqu'à ce que règne la justice dans tous les pays, que vous conserverez un cœur pur et des mains nettes de toute action injuste. C'est la condition requise pour vous approcher de Dieu et c'est ce que j'attends de vous. Chapitre 2. La puissance et la valeur de la pensée juste dépendent de son efficacité pratique. La réalité de l'homme, c'est sa pensée, ce n'est pas son corps. Force de pensée et force animale sont associées. Bien que l'homme fasse partie du monde animal, il possède un pouvoir de réflexion supérieur à celui de toute autre créature. Quand les pensées d'un homme sont sans cesse dirigées vers des questions spirituelles, alors il se sanctifie. Si au lieu de s'élever, ses pensées s'abaissent et se concentrent sur les choses de ce monde, il devient de plus en plus matériel et parvient à un état à peine supérieur à celui de l'animal. On peut diviser les pensées en deux catégories, celles qui appartiennent à la pure spéculation et celles qui se traduisent par des actes. Il est des hommes et des femmes qui tirent gloire de leurs pensées élevées. Toutefois, si celles-ci ne se traduisent jamais en actes, elles sont inutiles, car le pouvoir de la pensée se mesure à ses effets pratiques. Cependant, les idées des philosophes peuvent, en ce qui concerne l'évolution et le progrès, influencer la conduite des hommes, bien qu'ils soient eux-mêmes incapables ou se refusent à manifester leur grand idéal dans leur propre vie. C'est le cas de la plupart des philosophes dont les enseignements dépassent de bien loin la conduite. C'est là la différence entre les philosophes qui sont des maîtres spirituels et ceux qui ne sont que des philosophes. Le maître spirituel est le premier à suivre ce qu'il enseigne. Il transpose en acte son idéal et ses conceptions spirituelles. Ses pensées divines se traduisent visiblement dans le monde. Ses pensées font partie intégrante de lui-même. Il en est inséparable. Quand on se trouve en présence d'un philosophe qui met en relief l'importance et la grandeur de la justice et qui, par ailleurs, encourage un monarque avide à pratiquer la tyrannie et l'oppression, on peut en conclure sur le champ qu'il appartient à la première classe, car il ne met pas en pratique les vertus célestes correspondant à ses pensées sublimes. Il ne peut en être ainsi des philosophes spirituels, dont les actes sont toujours à l'image de leurs hautes et nobles idées. Chapitre 3. Dieu est le grand médecin compatissant. Lui seul apporte la véritable guérison. Toute guérison véritable vient de Dieu. Il existe deux causes de maladie, l'une matérielle, l'autre spirituelle. La maladie du corps nécessite un remède matériel, celle de l'âme, un remède spirituel. La guérison complète ne peut survenir que si, pendant le traitement, nous recevons la bénédiction divine. Car le traitement médical n'est que le moyen extérieur et visible qui nous permet d'obtenir la guérison spirituelle. Guérir le corps sans l'esprit ne sert à rien. Tout est dans les mains de Dieu, et sans lui, nous ne pouvons recouvrer la santé. Bien des hommes ont fini par mourir de la maladie même qu'ils avaient spécialement étudiée. Ainsi en fut-il d'Aristote, qui avait particulièrement étudié la fonction digestive et qui mourut d'une maladie d'estomac. Avicenne fut un spécialiste du cœur, cependant il mourut d'une maladie de cœur. Dieu est le grand médecin compatissant, qui seul possède le pouvoir de la vraie guérison. Toutes les créatures dépendent de Dieu, si grand que puisse paraître leur savoir, leur pouvoir et leur indépendance. Considérez les puissants monarques de la terre. Ils détiennent ici-bas toute la puissance que les hommes peuvent leur octroyer, et cependant, à l'appel de la mort, ils doivent obéir comme le font les paysans à leur dernière heure. Considérez aussi les animaux, comme ils sont impuissants dans leur force apparente. Ainsi l'éléphant, le plus grand de tous, tourmenté par une mouche, et le lion incapable d'éviter l'irritation causée par le ver. Même l'homme, la plus élevée parmi les créatures, a besoin de nombreux éléments pour assurer son existence. Avant tout, de l'air dont la privation, fût-ce pendant quelques minutes, cause la mort. Il lui faut aussi de l'eau, des aliments, des vêtements, de la chaleur et quantité d'autres choses. De toutes parts, les dangers et les difficultés l'entourent, contre lesquels son corps physique seul ne peut lutter. Si un homme observe le monde autour de lui, il voit combien toutes les choses créées sont dépendantes et prisonnières des lois de la nature. Seul l'homme, par son pouvoir spirituel, a été capable de se libérer, de s'élever au-dessus du monde matériel et d'asservir celui-ci. Sans l'aide de Dieu, l'homme serait semblable à l'animal qui périt. Mais Dieu lui a conféré un pouvoir si merveilleux qu'il peut toujours porter ses regards vers le ciel et obtenir, parmi d'autres bienfaits de sa divine bonté, la guérison de ses maladies. Mais hélas, l'homme n'est pas reconnaissant de ce bien suprême. Il dort du sommeil de la négligence, insouciant de la grâce immense que Dieu lui a accordée, détournant son visage de la lumière et poursuivant son chemin dans les ténèbres. C'est ma prière fervente qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, mais que votre visage demeure plutôt constamment tourné vers la lumière, afin que vous soyez comme des torches enflammées dans les heures sombres de la vie. Chapitre 4. Nécessite de l'union entre les peuples de l'Orient et de l'Occident. Autrefois, comme de nos jours, le soleil spirituel de vérité a toujours brillé à l'horizon de l'Orient. Abraham parut en Orient. Moïse, se leva en Orient pour diriger et instruire le peuple. À l'horizon de l'Orient surgit le Seigneur Christ. Mohammed fut envoyé à une nation orientale. Le Bab se leva dans un pays de l'Est, la Perse. Baha'u'llah vécut et enseigna en Orient. Tous les grands instructeurs spirituels ont paru dans le monde oriental. Mais bien que le soleil du Christ se soit levé en Orient, son rayonnement fut apparent en Occident où la splendeur de sa gloire fut plus nettement perçue. La divine lumière de son enseignement brilla avec une force plus grande dans le monde occidental où elle progressa plus rapidement que dans le pays de sa naissance. De nos jours, l'Orient a besoin de se développer sur le plan matériel et l'Occident manque de spiritualité. Il serait bon que l'Occident se tourne vers l'Orient pour en recevoir la lumière spirituelle et lui donner en échange ses connaissances scientifiques. Il faut que cet échange de dons ait lieu. L'Est et l'Ouest doivent s'unir pour se donner mutuellement ce qui leur manque. De cette union naîtra une vraie civilisation dans laquelle le spirituel trouvera son expression et sa réalisation sur le plan matériel. Par l'échange mutuel, la plus grande harmonie régnera. Tous les peuples seront unis. Ils atteindront à un état de haute perfection. Il se formera un lien solide et ce monde deviendra un brillant miroir où se refléteront les attributs de Dieu. Nous, peuple de l'Orient et de l'Occident, devons tous lutter jour et nuit de tout notre cœur et de toute notre âme pour atteindre ce noble idéal, cimenter l'unité entre toutes les nations de la terre. Alors, tous les cœurs seront rafraîchis, tous les yeux s'ouvriront. Le pouvoir le plus merveilleux nous sera donné et le bonheur de l'humanité sera assuré. Il nous faut prier afin que par la bonté de Dieu, la Perse puisse recevoir la civilisation matérielle et intellectuelle de l'Occident et lui donner, en retour, par la grâce divine, sa lumière spirituelle. L'action énergique et dévouée des peuples unis d'Orient et d'Occident aboutira à ce résultat, car la force de l'Esprit Saint les aidera. Il vous faudrait étudier attentivement, un par un, les principes et les enseignements de Baha'u'llah jusqu'à ce que votre esprit et votre cœur en soient pénétrés et les comprennent. Alors, vous deviendrez des disciples ardents de la lumière, des soldats de Dieu, sanctifiés et vraiment spirituels, connaissant la véritable civilisation, et vous répandrez celle-ci en Perse, en Europe et dans le monde entier. Lorsque l'humanité tout entière sera rassemblée sous la tente de l'unité, dans le royaume de gloire, ce sera le paradis qui doit s'établir sur la terre. Chapitre 5. Dieu comprend tout, il ne peut être compris. De nombreuses réunions ont lieu chaque jour à Paris pour discuter des questions de politique, de commerce, d'éducation, d'art, de science et de bien d'autres sujets. Toutes ces réunions sont utiles. Mais en cette assemblée, notre but consiste à nous tourner vers Dieu, à trouver le meilleur moyen de travailler au bien de l'humanité, d'abolir les préjugés et de déposer dans le cœur des hommes le germe de l'amour et de la fraternité universelle. Dieu approuve l'objet de notre réunion et nous donne sa bénédiction. Nous voyons que Dieu a dit, dans l'Ancien Testament, « Faisons l'homme à notre propre image ». Dans l'Évangile, le Christ a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Dans le Coran, Dieu dit « L'homme est mon mystère et je suis le sien ». Dans les écrits de Baha'u'llah, Dieu dit « Ton cœur est ma demeure, sanctifie-le pour que je descende en lui. Ton esprit est le lieu de ma révélation. » Purifie-le pour que je me manifeste en lui. Toutes ces paroles sacrées nous montrent que l'homme est fait à l'image de Dieu. Voir les paroles cachées 1.59, sélection des écrits d'Abdu'l-Bahá 118.2, Jean 14.10, Genèse 1, 26. L'homme est fait à l'image de Dieu, néanmoins, l'essence de Dieu est inconnaissable. Néanmoins, l'essence de Dieu est incompréhensible à l'esprit humain, car la compréhension limitée n'offre aucun recours pour saisir le mystère infini. Dieu contient tout, il ne peut être contenu. Le contenant est supérieur au contenu. Le tout est plus grand que les parties. L'homme ne peut comprendre les choses qui dépassent sa capacité d'entendement, de sorte qu'il lui est impossible de saisir la nature de la majesté de Dieu. Notre imagination ne peut se représenter que ce qu'elle est capable de créer. L'intelligence existe à des degrés divers suivant les règnes de la création. Les minéraux, les végétaux et les animaux sont incapables de comprendre ce qui est au-delà de leur propre création. Le minéral ne peut imaginer le pouvoir de croissance de la plante. L'arbre ne peut comprendre la faculté de locomotion de l'animal, ni ce que peut signifier voir, entendre ou sentir. Tout ceci fait partie de la création physique. L'homme en fait également partie. Mais il est impossible à n'importe lequel des règnes inférieurs de comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'un être humain. L'animal ne peut se faire une idée de l'intelligence de l'homme. Il ne connaît que ce que perçoivent ses sens et ne peut rien se figurer d'abstrait. L'animal ne pourrait apprendre que la terre est ronde, qu'elle tourne autour du soleil, pas plus qu'il ne pourrait construire un télégraphe électrique. Ces choses-là ne sont accessibles qu'à l'homme. L'homme est l'œuvre la plus noble dans la création. Et de toutes les créatures, c'est la plus proche de Dieu. Tous les règnes supérieurs sont incompréhensibles pour les règnes inférieurs. Comment alors serait-il possible à l'homme, cette créature, de comprendre le tout-puissant créateur de tout? Ce que nous imaginons n'est pas la réalité de Dieu. Lui, l'inconnaissable, l'inconcevable, est bien loin au-delà de la plus haute conception humaine. Toutes les créatures sont tributaires de la bonté divine. La vie même est un don de la faveur divine. Comme la lumière du soleil brille sur le monde entier, ainsi la grâce du Dieu infini se répand sur toutes les créatures. De même que le soleil fait mûrir les fruits de la terre et donne vie et chaleur à tous les êtres vivants, ainsi le soleil de vérité brille sur toutes les âmes, les remplissant du feu de l'amour divin et de la lumière de l'entendement. La supériorité de l'homme sur le reste du monde créé apparaît encore dans le fait qu'il possède une âme où réside l'Esprit divin. Les âmes des créatures moins élevées sont d'une essence inférieure. Il n'y a donc aucun doute que de tous les êtres créés, l'homme est le plus proche de la nature de Dieu, et que par conséquent, il reçoit une part plus grande de la divine bonté. Le règne minéral possède le pouvoir d'exister. La plante a le pouvoir d'exister et de croître. En plus de l'existence et de la faculté de croître, l'animal peut se mouvoir et faire usage de ses sens. L'espèce humaine possède tous les attributs des règnes inférieurs et bien d'autres encore. L'homme est la synthèse des créations antérieures car il les contient toutes. À l'homme est dévolu le don spécial de l'intelligence, qui lui permet de recevoir une plus grande part de la lumière divine. L'homme parfait est comme un miroir poli, réfléchissant le soleil de vérité et manifestant les attributs de Dieu. Le Seigneur Christ a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père, Dieu manifesté dans l'homme ». Le soleil ne quitte pas sa place au ciel pour descendre dans le miroir, car monter et descendre, aller et venir, n'est pas le propre de l'infini, mais le fait des êtres finis. Dans la manifestation de Dieu, le miroir parfaitement poli, les qualités divines apparaissent sous une forme que l'homme est capable de saisir. Cela est si simple que tout le monde est capable de le comprendre. Et ce que nous sommes capables de comprendre, nous devons forcément l'accepter. Notre Père ne nous tiendra pas pour responsables de rejeter des dogmes que nous ne pouvons ni croire ni comprendre, car il est toujours infiniment juste envers ses enfants. Cet exemple est d'ailleurs si logique que tout esprit peut le comprendre aisément s'il veut bien y réfléchir. Puisse chacun d'entre vous devenir une lampe brillante dont l'amour de Dieu soit la flamme. Puisse vos cœurs s'embraser du rayonnement de l'unité. Puissent vos yeux être illuminés par la splendeur du soleil de vérité. La ville de Paris est fort belle. Il serait impossible de trouver dans le monde actuel une ville plus civilisée et mieux aménagée dans toutes ses réalisations matérielles. Mais la lumière spirituelle ne l'éclaire plus depuis longtemps. Ses progrès spirituels sont bien en deçà de sa civilisation matérielle. Il faut un pouvoir souverain pour l'éveiller à la vérité spirituelle, pour faire pénétrer le souffle de vie en son âme endormie. Il faut vous unir tous pour la réveiller et ranimer sa population avec l'assistance de cette force supérieure. Quand un mal est bénin, un remède anodin suffit à le guérir. Mais si ce mal devient une terrible maladie, un remède très énergique doit alors être employé par le divin guérisseur. Il est des arbres qui fleurissent et donnent des fruits sous un climat tempéré. D'autres ont besoin des rayons les plus ardents du soleil pour atteindre à une parfaite maturité. Paris est l'un de ces arbres dont le développement exige le grand soleil brûlant du divin pouvoir de Dieu. Je demande à tous et à chacun de vous de suivre exactement la lumière de vérité des enseignements sacrés. Alors, Dieu vous fortifiera par son Esprit Saint afin que vous soyez capables de surmonter les difficultés et de détruire les préjugés, causes de séparation et de haine entre les peuples. Que vos cœurs soient remplis du grand amour de Dieu. Puissiez-vous tous ressentir cet amour, car tout homme est un serviteur de Dieu et tous ont droit à une part de la divine bonté. Par-dessus tout, montrez une bonté et une patience extrême à ceux dont les préoccupations sont matérielles et rétrogrades, les attirant de ce fait à l'unité confraternelle par votre rayonnante bonté. Si vous êtes persévérant dans votre grande tâche, si vous suivez le soleil sacré de vérité sans vous en écarter, alors le jour béni de la fraternité universelle poindra sur cette ville magnifique. Chapitre 6. Des causes lamentables de la guerre et du devoir de tous de lutter pour la paix. J'espère que vous êtes tous heureux et en excellente santé. Pour ma part, je ne suis pas heureux mais bien triste. Les nouvelles de la bataille de Benghazi me désolent. Je suis étonné de la sauvagerie humaine qui existe encore de nos jours. Comment se peut-il que des hommes se battent du matin jusqu'au soir, s'entretuant et répandant le sang de leurs semblables? Et dans quel but? Pour s'emparer d'une portion de terre. Même les animaux ont un motif immédiat et plus rationnel lorsqu'ils s'attaquent et se battent. Quelle terrible chose de voir que les hommes, créatures supérieures, puissent s'abaisser à massacrer leurs semblables ou à les réduire à la misère pour la possession d'un morceau de terre. Les êtres les plus élevés de la création combattent pour s'emparer de la matière sous sa forme la plus basse, la terre. La terre n'appartient pas à un seul peuple, mais à tous. Cette planète n'est pas la demeure de l'homme, mais sa tombe. C'est donc pour leur tombe que ces hommes s'affrontent. Il n'y a rien de plus horrible en ce monde que la tombe, l'abri du corps de l'homme en décomposition. Si grand que soit le conquérant, et quel que soit le nombre de pays qu'il réduise en esclavage, il ne peut jamais garder aucune partie de ses terres dévastées, si ce n'est cette portion minuscule, sa tombe. Lorsqu'un agrandissement territorial s'avère nécessaire à l'amélioration des conditions de vie d'un peuple, aux fins de répandre la civilisation, par exemple, substituer des lois justes à des coutumes brutales. Il devrait assurément être possible d'acquérir d'une manière pacifique ce territoire indispensable. Mais la guerre est faite pour satisfaire l'ambition des hommes, pour le profit du gain matériel de quelques-uns. Une misère terrible s'abat sur d'innombrables foyers, brisant le cœur de centaines d'hommes et de femmes. Combien de veuves pleurent leurs maris? Que d'histoires de sauvages cruautés ne devons-nous pas entendre? Combien de petits-enfants orphelins pleurent leurs pères disparus? Combien de femmes versent des larmes sur leurs fils massacrés? Il n'est rien de si terrible et de si déchirant qu'une explosion de sauvagerie humaine. Je vous charge tous de concentrer, chacun pour sa part, toutes vos pensées et votre cœur sur l'amour et l'unité. À une pensée de guerre, opposez une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être détruite par une puissante pensée d'amour. Les pensées de guerre détruisent toute harmonie, tout bien-être, tout repos et toute satisfaction. Les pensées d'amour créent la fraternité, la paix, l'amitié et le bonheur. Tandis que les soldats du monde tirent leurs épées pour tuer, les soldats de Dieu se serrent la main. Puisse ainsi disparaître toute la barbarie de l'homme par la grâce de Dieu, inspirant les cœurs purs et les âmes sincères. Ne croyez pas que la paix mondiale soit un idéal impossible à atteindre. Rien n'est impossible à la bienveillance de Dieu. Si de tout votre cœur, vous souhaitez pratiquer l'amitié envers toutes les races de la terre, votre idée spirituelle et positive se propagera. Cette aspiration deviendra celle des autres et s'intensifiera de plus en plus jusqu'à toucher l'esprit de tous les hommes. Ne désespérez pas. Travaillez avec constance. La sincérité et l'amour vaincront la haine. Que d'événements apparemment impossibles sont en train de se réaliser de nos jours. Que votre visage se tourne avec persévérance vers la lumière du monde. Montrez-vous amical pour tout le monde. L'amour est le souffle de l'Esprit-Saint dans le cœur de l'homme. Ne vous découragez pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui luttent, travaillent et prient. Que votre cœur soit rempli de désirs ardents de voir régner la tranquillité et l'harmonie dans ce monde en guerre. Ainsi, vos efforts seront couronnés de succès, et avec la fraternité universelle, le royaume de Dieu s'établira dans la paix et la bonne volonté. Aujourd'hui, dans cette pièce, les représentants de bien des nations, français, américains, anglais, allemands, italiens, tous frères et sœurs, se trouvent réunis dans l'amitié et l'harmonie. Que cette assemblée soit un signe avant-coureur de ce qui se passera dans ce monde, quand tous les enfants de Dieu comprendront qu'ils sont les feuilles d'un même arbre, les fleurs d'un même jardin, les gouttes d'eau d'un seul océan, et les fils et filles d'un même Père dont le nom est amour. Chapitre 7. Le soleil de vérité. C'est une journée splendide. Le soleil brille, radieux, sur la terre, répandant lumière et chaleur sur toutes les créatures. Le soleil de vérité brille aussi, éclairant et réchauffant les âmes des hommes. Le soleil donne la vie au corps physique de toutes les créatures terrestres. Sans sa chaleur, leur croissance et leur développement s'arrêteraient. Ils dépériraient et mourraient. Il en va de même pour les âmes humaines. Les rayons du soleil de vérité sont nécessaires à leur développement pour les éduquer et pour les soutenir. Ce que le soleil donne au corps de l'homme, le soleil de vérité le donne à son âme. Un homme peut atteindre à un degré élevé de progrès matériel. Cependant, sans la lumière de vérité, son âme serait privée de nourriture et s'étiolerait. Un autre homme peut être dépourvu de possessions matérielles et se trouver en bas de l'échelle sociale. Mais s'il a reçu la chaleur du soleil de vérité, son âme s'est développée et sa compréhension spirituelle est éclairée. Un philosophe grec des premiers temps du christianisme, pénétré de la doctrine chrétienne, quoique non pratiquant, écrivait « Je suis convaincu que la religion est la base même de la vraie civilisation. » En effet, la civilisation n'a pas de fondement solide si le sens moral, l'intelligence et les aptitudes des hommes ne sont pas dirigés. du fait que la religion inculque les principes de moralité, c'est pour cette raison qu'elle est la philosophie la plus vraie, et que, sur elle, on peut construire la seule civilisation qui soit durable. Pour illustrer sa croyance, ce philosophe fait remarquer la très haute moralité des chrétiens de cette époque. L'opinion de ce philosophe est juste, car la civilisation chrétienne était la plus haute et la plus éclairée du monde. Les enseignements chrétiens étaient illuminés par le divin soleil de vérité. Aussi préconisait-il d'aimer tous les hommes comme des frères et de ne rien craindre, pas même la mort. Aimer son prochain comme soi-même, oublier ses propres intérêts égoïstes, en s'efforçant d'améliorer le sort de l'humanité, voilà le but principal de la religion du Christ, qui était d'amener tous les cœurs plus près de la radieuse vérité de Dieu. Si les adeptes du Christ avaient continué de vivre selon ses principes avec une fidélité constante, il n'aurait pas été nécessaire de renouveler le message chrétien, ni de réveiller ses adeptes, car une haute et glorieuse civilisation régnerait maintenant dans le monde, et le royaume de Dieu serait établi sur la terre. Mais au lieu de cela, qu'est-il arrivé? Les hommes se détournèrent des préceptes divinement éclairés de leur maître, et l'hiver s'abattit sur leur cœur. En effet, de même que le corps humain reçoit la vie des rayons du soleil, ainsi, sans le rayonnement du soleil de vérité, les célestes vertus ne peuvent se développer dans l'âme. Dieu ne laisse pas ses créatures sans aucun réconfort. Quand les ténèbres de l'hiver les enveloppent, de nouveau, il leur envoie ses messagers, les prophètes, porteurs d'un autre printemps béni. Le soleil de vérité réapparaît à l'horizon du monde, éclairant les yeux de ceux qui sommeillent et les éveillant dans la gloire de l'aurore nouvelle. Alors, une fois de plus, fleurit l'arbre de l'humanité, produisant le fruit de justice qui guérira les nations. Parce que l'homme est resté sourd à la voix de la vérité, parce qu'il a fermé les yeux devant la lumière sacrée, négligeant la loi de Dieu, pour cette raison, les ténèbres du désordre et de la guerre, de l'inquiétude et de la misère ont affligé la terre. Je prie pour que tous, vous vous efforciez d'amener chaque enfant de Dieu dans le rayonnement du soleil de vérité, afin que l'obscurité soit dissipée par les rayons pénétrants de sa gloire, et que les rigueurs et les frimas de l'hiver puissent disparaître sous la chaleur bienfaisante de son rayonnement. Chapitre 8. La lumière de vérité brille aujourd'hui sur l'Orient et l'Occident. Quand un homme a trouvé la joie de vivre en un lieu quelconque, il y revient pour éprouver un plus grand bonheur. Quand un homme a découvert de l'or dans une mine, il y retourne pour en extraire encore davantage. Ceci démontre la force intérieure et l'instinct naturel que Dieu a donné à l'homme, ainsi que la puissance de la force vitale qu'il possède. L'Occident a toujours reçu l'illumination spirituelle de l'Orient. La mélodie du royaume est d'abord perçue dans l'Est, mais à l'Ouest, elle éclate avec une résonance plus forte, frappant les oreilles attentives. Le Seigneur Christ se leva comme une brillante étoile dans le ciel d'Orient, mais la lumière de ses enseignements resplendit d'une manière plus vive en Occident, où son influence prit racine plus solidement et où sa cause se répandit plus largement que dans sa terre natale. Les échos du chant du Christ retentirent à travers toutes les contrées du monde occidental et pénétrèrent les cœurs de ses peuples. Les peuples d'Occident sont fermes et les fondations sur lesquelles ils construisent sont de roc. Ils sont doués de constance et n'oublient pas aisément. L'Occident ressemble à une plante vigoureuse et robuste. Nourrie par les ondées et réchauffée par le soleil, elle fleurit alors en temps voulu et porte de beaux fruits. Depuis bien longtemps, le soleil de vérité, reflété par le Seigneur Jésus-Christ, ne répand plus ses rayons sur l'ouest, car la face de Dieu a été voilée par les péchés et l'oubli des hommes. Mais aujourd'hui, Dieu en soit loué, l'Esprit Saint s'adresse encore une fois au monde. De nouveau, les étoiles d'amour, de sagesse et de puissance brillent à l'horizon divin pour donner la joie à tous ceux qui tournent leur visage vers la lumière de Dieu. Baha'u'llah a déchiré les voiles des préjugés et des superstitions qui étouffaient les âmes. Prions Dieu pour que le souffle de l'Esprit-Saint rende le repos et l'espoir aux humains, éveillant en eux le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Puissent les âmes et les cœurs se ranimer, ainsi tous recevront la joie d'une naissance nouvelle. Alors l'humanité revêtira un nouvel aspect sous la splendeur de l'amour de Dieu, et ce sera l'aube d'une autre création. Alors la grâce du très miséricordieux descendra sur toute l'humanité qui commencera une vie nouvelle. Mon plus ardent désir est de vous voir tous travailler et vous efforcer d'atteindre ce but glorieux. Soyez de fervents et fidèles ouvriers pour édifier la nouvelle civilisation spirituelle. Soyez les élus de Dieu, désireux d'obéir dans l'allégresse à la réalisation de ses ultimes desseins. Le succès est vraiment proche, car le divin étendard a été levé et le soleil de la justice de Dieu est apparu à l'horizon, visible pour tous. Chapitre 9. L'amour universel. Mon but dans la vie est de transmettre de mon mieux le message de Krishna à l'humanité. Abdu'l-Bahá répondit : Le message de Krishna, c'est celui de l'amour. Tous les prophètes nous ont transmis le message de l'amour. Aucun d'entre eux n'a jamais considéré la guerre et la haine comme des bienfaits. Tous s'accordent à déclarer que l'amour et la bonté sont préférables. L'amour se manifeste non seulement par des paroles, qui seules n'ont aucun effet, mais par des actes. Pour que l'amour puisse manifester son pouvoir, il lui faut un objet, un instrument, un mobile. L'amour peut s'exprimer de bien des manières. Amour de la famille, du pays, de la race. Il y a l'enthousiasme pour un parti politique ou encore l'esprit de solidarité dans le service. Tous sont des moyens de manifester le pouvoir de l'amour. Sans eux, il ne serait ni visible, ni perçu, ni ressenti, demeurant à la fois inexprimé et caché. Le pouvoir de l'eau apparaît de différentes façons. Elle apaise la soif, elle fait croître le grain, etc. L'une des propriétés du charbon devient visible dans le gaz d'éclairage, tandis que la lumière manifeste un des pouvoirs de l'électricité. S'il n'existait ni gaz ni électricité, les nuits resteraient obscures sur la Terre. De même, il est nécessaire d'avoir recours à un canal, une raison, un objet, un mode d'expression pour manifester l'amour. Il nous faut trouver le moyen de répandre l'amour parmi les hommes. L'amour est illimité, infini et sans bornes. Les choses matérielles sont limitées, circonscrites, finies. Il est impossible d'exprimer l'amour infini d'une manière adéquate avec des moyens limités. L'amour parfait a besoin d'un intermédiaire désintéressé, absolument libre de toute entrave. L'amour de la famille est limité. Les liens du sang ne sont pas les plus forts. Il arrive fréquemment que les membres d'une même famille soient en désaccord et même se haïssent. L'amour de la patrie a ses limites. L'amour d'un pays, capable d'engendrer la haine des autres pays, n'est pas parfait. De plus, les compatriotes ne sont pas exempts de querelles intestines. L'amour de la race est limité. Bien que manifestant une certaine union, celle-ci est insuffisante. L'amour doit être libre de toute restriction. Aimer sa propre race peut signifier haïr toutes les autres. Et même entre eux, les gens de même race se détestent souvent. Les alliances politiques sont fortement entachées par la haine des partis. Ce genre d'amour est très borné et incertain. Le sentiment de solidarité dans le service pour un intérêt commun est également sujet à fluctuation. De fréquentes compétitions s'élèvent, conduisant à la jalousie et à la longue, la haine prend la place de l'amour. Il y a quelques années, la Turquie et l'Italie pratiquaient une politique d'entente amicale. Maintenant, elles sont en guerre. Tous ces liens d'attachement sont imparfaits. Il est évident que ces liens matériels limités sont insuffisants pour exprimer l'amour universel d'une manière convenable. Que tous soient unis par cette divine puissance d'amour. Que tous s'efforcent de se développer à la lumière du soleil de vérité. Et reportant cet amour éclairé sur tous les hommes, puissent leurs cœurs s'unir si étroitement qu'ils vivent à jamais dans la splendeur de cet amour sans limite. N'oubliez pas les paroles que je vous adresse pendant mon court séjour à Paris. Je vous encourage fortement à ne pas laisser vos cœurs enchaînés par les choses matérielles de ce monde. Je vous adjure de ne pas demeurer allongé complaisamment sur le lit de la négligence, prisonnier de la matière, mais bien de vous lever et de vous libérer de ses chaînes. Le monde animal est esclave de la matière. À l'homme, Dieu a donné la liberté. L'animal ne peut échapper aux lois de la nature, tandis que l'homme peut dominer celle-ci, car il la contient et il peut s'élever au-dessus d'elle. La puissance de l'Esprit-Saint, éclairant l'intelligence de l'homme, lui a permis de découvrir les moyens d'infléchir bien des lois naturelles selon sa volonté. Il vole à travers les airs, vogue sur la mer et peut même se déplacer sous les eaux. Tout ceci prouve que l'intelligence de l'homme lui a permis de s'affranchir des limitations de la nature et de résoudre bien des mystères. Jusqu'à un certain point, l'homme a brisé les chaînes de la matière. L'Esprit-Saint donnera à l'homme des pouvoirs supérieurs à ceux-ci, si seulement ses efforts tendent à la spiritualité et s'il essaie de mettre son cœur à l'unisson de l'amour divin infini. Quand vous aimez un membre de votre famille ou un compatriote, que ce soit avec une étincelle de l'amour infini, que ce soit en Dieu et pour Dieu, aimez toute personne en qui vous trouvez les attributs de Dieu, qu'elle soit de votre famille ou non. Versez la lumière d'un amour sans limite sur tous ceux que vous rencontrez, qu'ils soient de votre pays, de votre race, de votre parti politique ou qu'ils soient de toute autre nation, race ou nuance d'opinion. Le ciel vous assistera dans votre tâche, tandis que vous rassemblez les peuples éparses à l'ombre de la tente suprême de l'unité. Vous serez les serviteurs de Dieu, résidant près de lui. Vous serez ses divins assistants dans le service, secourables à tous, toute l'humanité, chaque créature humaine. N'oubliez jamais ceci. Ne dites pas « c'est un Italien » ou « un Français » ou « un Américain » ou « un Anglais ». Retenez seulement que c'est un fils de Dieu, un serviteur du Très-Haut, un homme. Ce sont tous des hommes. Oubliez les nationalités. Au regard de Dieu, tous les êtres sont égaux. Ne pensez pas à vos capacités limitées. L'aide de Dieu vous sera donnée. Oubliez-vous vous-même. Le secours de Dieu viendra sûrement. Lorsque vous ferez appel à la grâce de Dieu, prête à vous fortifier, votre énergie sera décuplée. Regardez-moi, je suis si faible. Cependant, la force de venir jusqu'à vous m'a été donnée, à moi, pauvre serviteur de Dieu, pour me permettre de vous transmettre ce message. Je ne serai pas longtemps avec vous. Il ne faut jamais considérer sa propre faiblesse. C'est la force de l'esprit sacré de l'amour qui donne le pouvoir d'enseigner. La pensée de notre propre faiblesse ne pourrait que nous désespérer. Il nous faut porter l'attention plus haut que toutes les pensées de la terre, nous détacher de toute idée matérielle et aspirer ardemment aux choses de l'esprit. Nous devons fixer nos yeux sur l'éternelle et généreuse miséricorde du Tout-Puissant, qui rendra nos âmes heureuses d'obéir avec joie à son commandement « Aimez-vous les uns les autres ». Chapitre 10. L'emprisonnement d'Abdu'l-Bahá. Je regrette beaucoup de vous avoir fait attendre ce matin, mais j'ai tant à faire et en si peu de temps pour la cause de l'amour de Dieu. Vous ne me tiendrez pas rigueur d'avoir attendu un peu pour me voir. J'ai attendu en prison pendant des années et des années avant de pouvoir venir vers vous. Au-dessus de tout, que Dieu en soit loué, nos cœurs battent toujours à l'unisson, et dans une même aspiration, ils sont entraînés vers l'amour de Dieu. Par la bonté du royaume, notre cœur, notre esprit, nos souhaits ne sont-ils pas en harmonie? Nos prières ne sont-elles pas offertes en vue de faire régner l'accord parmi tous les hommes? Dès lors, ne sommes-nous pas toujours ensemble? Hier soir, en rentrant de chez M. Dreyfus, j'étais très fatigué. Cependant, je ne dormais pas. Étendu mais éveillé, je réfléchissais et je me disais « Oh mon Dieu, me voici à Paris. Qu'est-ce que Paris? Et qui suis-je? » Dans l'obscure prison où je me trouvais, je n'aurais jamais rêvé à la possibilité de venir jusqu'à vous. Et pourtant, lorsque j'avais entendu la sentence qui me frappait, je n'y avais pas cru. On m'avait dit qu'Abdul Hamid me condamnait à un emprisonnement perpétuel, mais j'avais pensé « c'est impossible, je ne serai pas toujours en prison ». Si Abdul Hamid était immortel, une telle condamnation pourrait peut-être s'exécuter. Mais je serai certainement libre un jour. Mon corps peut être retenu en prison pour quelque temps, mais Abdul Hamid n'a nul pouvoir sur mon esprit, qui doit rester libre, car lui, aucun homme ne peut l'enfermer. Libéré par la puissance divine, me voici en ce lieu, parmi les amis de Dieu, et je lui en suis reconnaissant. Répandons cette cause divine pour laquelle j'ai souffert la persécution. Quel privilège de nous rencontrer ici, en toute liberté. Quelle joie pour nous de pouvoir, par la volonté de Dieu, travailler ensemble à l'avènement du royaume. Êtes-vous satisfait de recevoir un tel visiteur, libéré de son emprisonnement pour vous apporter le glorieux message, et qui n'aurait jamais pu croire à la possibilité d'une telle rencontre? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par son merveilleux pouvoir, me voici à Paris, m'entretenant avec vous, moi qui fus condamné à la prison perpétuelle dans une lointaine ville d'Orient. Désormais, par le cœur, l'âme et l'esprit, nous serons toujours ensemble, brûlant les étapes jusqu'à ce que tous les hommes soient rassemblés dans le sanctuaire du royaume, chantant les cantiques de paix.